up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture aujourd'hui. De la science, du documentaire, de l'enquête journalistique, de la grande musique classique, du slam et du jazz. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, mais aussi Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Eva Rock pour le zapping du lendemain et pour commencer le journal des médias d'Antoine Genton avec en prime les audiences. Notre infomédia va se pencher sur la naissance d'un nouveau magazine scientifique né de la crise historique qu'a subi le magazine Science et Vie dont la quasi-totalité de la rédaction a démissionné pour mieux se rassembler peut-être autour d'Epsilon, c'est son nom. Nous sommes avec ses créateurs Mathilde Fontaise et Hervé Poirier. Encore un projet et non des moindres, un nouveau futur géant de la production audiovisuelle qui déboule dans le paysage et qui annonce une levée de fonds de 35 millions d'euros. C'est Studio Fact, lancé par le producteur Jacques Aragonès, patron de TV Presse, et Roxane Rouas-Rafovitch, ex-directrice générale de Fremantle France. Enfin, une figure mondiale de la grande musique, la chef d'orchestre Zaya Ziouani, qui a créé à l'âge de 20 ans son orchestre symphonique à elle, l'orchestre Divertimento. Plus de 70 musiciens. Et vous savez quoi ? Eh bien, les salles vont rouvrir. Et ils seront, et elle sera, en concert à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris, le 3 juin. Il y aura en prime dans l'émission son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à tous, à toutes et à tous.
Bienvenue au sommaire de votre journal des médias Antoine.
Une nouvelle émission sur des affaires criminelles non résolues, ce sera bientôt sur M6. Le retour de Mention Particulière, téléfilm sur TF1, et puis toute une série de cas contacts. Ça s'est passé lors d'un enregistrement de l'émission de Laurent Ruquier diffusée avant-hier.
Ah oui, toutes les radios l'ont senti passer, mais on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Eh bien TF1 arrive en tête des audiences avec la rediffusion de Radin, comédie de Fred Cavalier. Avec Danny Boone et Laurence Arnay, 4 670 000 téléspectateurs, 20,4% de part d'audience. Deuxième place pour France 3, avec un téléfilm policier inspiré d'une histoire vraie, la disparition pendant 11 jours de la romancière Agatha Christie en 1926, 2 870 000 téléspectateurs, 12,5% de part d'audience. Troisième France 2, Django Unchained de Quentin Tarantino, 2 540 000 téléspectateurs, 13,3% de part d'audience. Et quatrième place pour M6, avec un numéro de Zone Interdite. Numéro consacré aux villes de province qui ont le vent en poupe. Hein. En ce moment, 2 400 000 téléspectateurs, 10,8% de part d'audience.
Et les audiences du week-end maintenant, à présent, on commence par le samedi.
Oui, c'est France 3 là, qui est arrivée en tête avec Cassandre, comme la semaine dernière. La série policière portée par Gwendoline Hamon est en très légère baisse. 5 100 000 téléspectateurs, 80 000 de moins, mais elle progresse en part d'audience. 22,6% contre 20,8% le samedi précédent. France 3 en tête donc sur les deux indicateurs devant TF1. The Voice a réuni 4 400 000 personnes, 22% de part d'audience. Troisième, France 2 avec N'oubliez pas les paroles en légère baisse. Sur une semaine, c'était pourtant la finale du tournoi des Maestros.
Et vendredi ?
Le vendredi, c'est l'autre duel du week-end, TF1 oui. Encore et Koh-Lanta, face à France 2 et ses séries policières, duel remporté cette semaine par la première chaîne. Koh-Lanta a réuni près de 5 800 000 téléspectateurs, chiffre en hausse sur une semaine. Nette baisse en revanche pour France 2, il faut dire qu'elle ne diffusait pas Capitaine Marlowe, mais L'Art du Crime. 4 370 000 téléspectateurs pour le premier épisode de la quatrième saison avec Stéphane Bern. C'est quand même un excellent score pour le retour de cette série policière.
Culture Média.
Le journal des médias à présent, Antoine, avec à la une nouvelle émission sur M6.
Elle va parler d'affaires criminelles non résolues, un sujet qui a le vent en poupe actuellement à la télévision, au bout de l'enquête sur France 2, Cold Case à la recherche du coupable sur C8. Mais là, sur M6, l'approche sera différente. La chaîne veut mobiliser les téléspectateurs. Appel à témoins, c'est le titre de ce nouveau programme qui devrait arriver à l'antenne avant l'été. Une information de nos confrères du Parisien. Une émission de 2 heures, en direct, pendant laquelle les téléspectateurs pourront appeler un numéro vert et éventuellement apporter de nouveaux éléments pour tenter de résoudre des affaires encore mystérieuses. Au bout du fil, 8 membres des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, car l'émission sera réalisée en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice.
Le focus programme du jour, c'est un téléfilm à voir ce soir sur TF1, Mention Particulière, bienvenue dans l'âge adulte.
Là, c'est la suite du téléfilm Mention Particulière, diffusé en 2017, un téléfilm dans lequel Laura, une jeune femme trisomique, décide de passer son bac à 21 ans, bac qu'elle obtient. Dans la suite, donc ce soi, on va retrouver Laura quelques années plus tard, stagiaire dans une radio. Elle rêve de devenir journaliste. Elle est encore incarnée par la formidable Marie Dalzotto, atteinte de trisomie 21. Une comédienne très heureuse de retrouver les autres acteurs, notamment ceux qui jouent ses parents, Hélène de Fougerolles et Bruno Salomon. L'acteur nous a d'ailleurs raconté leur retrouvaille.
On n'a pas respecté les gestes barrières parce qu'elle nous a sauté dans les bras tout de suite. Mais on peut pas lui refuser ça, Marie. C'est l'actrice la plus optimiste que j'ai rencontrée de ma vie. C'est-à-dire qu'elle déborde d'enthousiasme, elle est tout le temps en train de dire qu'est-ce que je suis content d'être là, qu'est-ce que je vous aime et tout. Et c'est hyper communicatif, sa joie d'être sur le plateau, elle est tellement heureuse de faire ça. Mais d'ailleurs, ce qui est gênant, c'est que Marie m'appelle papa devant son père, des fois j'étais un peu gêné, parce que on joue une famille alors qu'on est dans une fiction, donc faut bien séparer les choses. Et en même temps, on a installé un climat ensemble qui est hyper touchant. C'est Marie qui fédère ça, elle a créé un groupe sur WhatsApp, elle entretient réellement contact avec nous, elle est incroyable.
Le lien est très fort entre les acteurs, il l'est aussi entre les personnages. Dans le film, Jérôme, le père joué donc par Bruno Salomon, doit faire face au désir d'émancipation de sa fille Laura, qui découvre le monde du travail et les premiers amours. Le premier volet avait très bien marché, près de 6 millions de téléspectateurs il y a 4 ans. Cela dit, ce n'est pas l'audience qui a convaincu Bruno Salomon de reprendre son rôle, mais bien le scénario.
J'avoue que ça fait toujours plaisir quand on nous dit « ouais, ça a cartonné, il y a plein de gens qui ont regardé ». Mais moi, c'est pas mon moteur. Mais pour Marie, ça représente quelque chose. D'ailleurs, il y a un moment, elle était un petit peu dans un état un peu second. Je dis, ça va pas, Marie. Et puis, je la vois presque au bord des larmes. Elle dit, j'ai peur. Je dis, mais c'est normal d'avoir peur, etc. Elle me dit, non, mais j'ai peur de décevoir mes fans. Et je dis, ah bon, mais je trouvais ça tellement mignon. Je dis, mais t'as combien de fans? Elle fait, 6 millions. T'as 6 millions de fans sur les réseaux sociaux. Elle fait, mais non, les 6 millions qui ont regardé Mention Particulière. Je trouvais ça tellement beau.
Voilà, Bruno Salomon, joint par Louise Bernard. Mention Particulière, bienvenue dans l'âge adulte. C'est ce soir sur TF1 à 21h05.
Dans l'actualité des médias, une série de cas contacts lors de l'enregistrement de l'émission spéciale qu'a consacré Laurent Ruquier aux 100 ans de la radio. C'était samedi soir sur France 2.
Oui, l'un des invités a été testé positif au Covid. Conséquence, tous les autres sont cas contacts, enfin sauf ceux qui ont été déjà vaccinés. Yves Calvi, par exemple, ne sera pas sur Canal+ ce soir. Il a été placé à l'isolement pour 7 jours. En revanche, Pascal Praud, qui était présent lui aussi lors de l'enregistrement, devrait être sur l'antenne de CNews.
Mathieu Béliard aussi a été touché, il est à la matinale de chez lui. Une mesure de soutien à la presse.
Une mesure effective depuis hier. Si vous prenez pour la première fois un abonnement à un titre de presse, papier ou numérique, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt de 30%. Une disposition qui doit permettre de soutenir la presse, secteur affaibli par la crise sanitaire.
Autre soutien, une campagne de soutien même pour France 4.
Oui, soutien de sénateurs d'abord. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche hier, une quarantaine d'entre eux appellent les députés à confirmer un amendement adopté la semaine dernière au Sénat. Texte qui demande à pérenniser France 4, une chaîne qui doit s'arrêter l'été prochain. Autre soutien pour France 4, renouveler celui-là, celui de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Elle l'a dit hier aussi au JDD.
Un entretien dans lequel Delphine Ernotte a fait deux annonces.
La première, à partir du 1er juillet, tous les contenus éditoriaux des chaînes publiques européennes seront traduits et accessibles gratuitement sur Internet. La deuxième, le lancement d'un média européen tourné vers les plus jeunes et mobilisé pour l'écologie. Le projet Phoenix, il doit être lancé avant la fin de l'année.
Pour les régionales, il y aura deux débats d'entre-deux tours sur les chaînes de BFM.
Oui, BFM TV et BFM Région. Le premier aura lieu le 23 juin et concernera l'Île-de-France. Il sera diffusé sur BFM TV donc et BFM Paris. Le second se tiendra le lendemain dans les Hauts-de-France et sera retransmis sur BFM Grand Lille et Grand Littoral ainsi que sur BFM TV.
Certains journalistes choisissent la politique, on l'a vu ces dernières semaines. D'autres, la communication.
C'est le cas de Jacques Cardoz. Le présentateur de Complément d'enquête va devenir le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille dans un peu plus d'un mois. Ce sera le 15 juin. Sa nomination a été confirmé vendredi, cela faisait quelques jours qu'on en parlait, on l'avait évoqué ici même. Une nouvelle carrière pour Jacques Cardoz donc, qui a passé près de 30 ans à travailler pour France Télévisions et c'est à Marseille d'ailleurs qu'il avait commencé sa carrière.
Merci Antoine Genton. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le site europe1.fr. Antoine, on vous retrouve demain.
À demain.
Et pour toute la semaine pour les audiences, en plus du journal des médias. On salue Louise Bernard qui est en vacances, qui doit se réveiller maintenant. Dans un instant, notre info Média du jour, un nouveau magazine scientifique. Les deux fondateurs ont choisi Europe 1 pour l'annoncer. Deux anciens du magazine Science et Vie, Mathilde Fontaise et Hervé Poirier, sont nos invités.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Ils avaient été nos invités il y a quelques semaines pour parler de la crise historique que traversait le magazine Science et Vie. La quasi-totalité de la rédaction venait alors de démissionner. Les conditions de réalisation d'un journal scientifique de référence n'étaient plus réunies, disait-il. En cause, les choix contestables du nouveau propriétaire ReWorld Media. Bref, loin d'être abattus, les voici de retour dans Culture Média. Ils viennent nous présenter leur nouveau projet, Engagé et Exigeant, un magazine d'actualité scientifique porté par une équipe rédactionnelle expérimentée. Bonjour Hervé Poirier.
Bonjour.
Bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux rédacteurs en chef de cette nouvelle revue. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour la dévoiler. Hervé Poirier, je me tourne vers vous pour commencer. Quelques éléments de présentation, une sorte de fiche d'identité. Quel sera son titre, sa périodicité et son prix ?
Donc ce nouveau magazine s'appelle Epsilon, avec deux O. Il sera mensuel et il sera tous les mois à 4,90 dans les kiosques.
On est ici à la radio, vous les placez où les deux O ?
Epsilon, parce que c'est un petit jeu, les deux O forment un signe infini dans
exactement,
le logo.
Exactement, ça fait l'infini qui est le 8 couché et ce sera deux petits O comme ça, Epsilon. 4,90, le premier journal fin juin, premier numéro pardon fin juin, on va revenir sur le prix, mais d'abord le titre. Pourquoi choisir Epsilon, ça dit quoi ? C'est l'infini ?
Bah, Epsilon, c'est un nom, c'est le E grec qui représente classiquement en mathématiques une grandeur infinitésimale, toute petite. Mais de façon assez amusante, les mathématiciens utilisent aussi Epsilon pour un nombre infiniment grand, qui est l'infini à l'exposant infini, à l'exposant infini, et ce, une infinité de fois. Donc on s'est amusé avec cet infiniment grand et cet infiniment petit pour remplir Epsilon d'histoires infiniment profondes et infiniment légères, de parler de phénomènes très complexes et très élémentaires, et de parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Alors, on a trouvé que ce nom portait bien le projet.
Attention, pour qui prendrait l'émission en cours de route à l'instant même, c'est pas un magazine sur les maths, Mathilde Fontaise. Qu'est-ce qu'on va trouver dans Epsilon ?
C'est un magazine scientifique d'actualité. Donc c'est un magazine qui va parler du monde, mais sous l'angle de la science, de manière la plus large possible. Donc on va s'emparer de tous les sujets. On va parler du climat, on va parler de l'espace, évidemment. On va parler de biologie, de médecine. C'est vraiment la science pour Epsilon, c'est un angle.
Ouais.
C'est un angle avec lequel on va regarder le monde du quotidien aussi. On va s'emparer des sujets les plus basiques, les plus quotidiens. Et l'idée, c'est de montrer, parce qu'on sait que c'est inépuisable, on sait que la science propose des visions radicales, des visions nouvelles sur le monde de manière absolument inépuisable. Et on va raconter le monde comme ça sous l'angle de la science tous les mois.
Alors, on va parler concrètement de quelques-uns des sujets que vous allez traiter dans le premier numéro d'Epsilon qui va sortir fin juin. Premier exemple, une enquête d'actualité qui apporte des réponses à une question qu'on se pose tous. Pourra-t-on vraiment se débarrasser du Covid-19 ? Vaste sujet. Réponse ?
L'enquête est en cours.
Donc mais vous ne savez pas encore ?
Si, non, on sait bien en fait que c'est un phénomène, c'est une dynamique virale fascinante.
Ouais.
C'est que les meilleurs experts prédisent que le virus du corona va devenir un peu comme le rhume. C'est-à-dire qu'il sera présent annuellement.
Comme la grippe ?
Comme la grippe. Et il sera de moins en moins dangereux.
Ouais.
Mais on va vivre avec, il va falloir apprendre à vivre avec.
Alors, différentes rubriques que vous allez proposer, dont une particulièrement stimulante, elle va s'appeler Contre-pied. Racontez l'idée, Mathilde Fontaise.
L'idée de contre-pied, c'est qu'en fait, quand on connaît bien la science, on s'aperçoit que la science, finalement, c'est l'un des moyens de proposer des visions les plus radicales. La science est loin d'être un ronron autour d'une idée qui va rester la même. Et tout le temps, des chercheurs proposent des points de vue qui sont radicalement à l'opposé des points de vue de l'avant. Ouais. La science, c'est un débat permanent.
Par exemple.
Et donc, chaque mois, on va donner la parole à un chercheur qui propose un point de vue radical. Et dans le premier numéro, c'est une chercheuse américaine qui va nous expliquer que l'addiction, en fait, il n'y a pas d'addiction aux écrans.
Ah bon ?
Non, notre attachement aux écrans, c'est une habitude. Et c'est pas juste une histoire de vocabulaire, ça change vraiment fondamentalement la manière notamment de traiter des dérives. Et la chercheuse en fait se base sur toute une étude psychologique pour démontrer qu'en fait quand on parle d'addiction, on se trompe en parlant des écrans.
Pourtant il y a des cures pour se déshabituer, pour se désintoxiquer justement.
Alors, oui, mais par exemple, on a, elle développe tout dans ses arguments. En fait, elle développe notamment cette idée que quand on est, quand une addiction, en fait, par exemple, c'est la recherche d'une dose toujours plus grande.
Oui.
Et pour les écrans, ça n'est pas le cas. Pour les écrans, on n'observe pas, dans les statistiques hein, qui permettent d'évaluer tout ça, on n'observe pas cette recherche d'une dose toujours plus grande. Et c'est l'un des éléments qui amène la chercheuse à dire qu'il ne s'agit pas d'une addiction. Donc c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ouais. Ça veut dire que on peut quelque part contrôler notre utilisation des écrans sans avoir besoin de ces cures, par exemple.
Ouais.
On peut la maîtriser de manière plus simple que si c'était une addiction.
L'interview de Wendy Wood, puisque c'est d'elle dont on parle, sera a priori la seule qui sera proposée dans l'épisode comme interview. Quelle place vous allez donner aux scientifiques, aux chercheurs, aux chercheuses, Hervé Poirier?
On va être très transparent dans Epsilon, c'est-à-dire qu'on va afficher le travail fier des journalistes, parce que c'est un journal qui est fait par des journalistes, qui contactent chaque mois une centaine de scientifiques à travers le monde. Donc on va donner la parole à ces scientifiques de façon très transparente, on va montrer que les histoires qu'on raconte, elles sont tissées des discussions que l'on a avec ces explorateurs du réel.
Je vous interromps tout de suite, tous les journaux ne font pas ça? Les journaux sont toujours transparents et citent leurs sources, ou est-ce que...
Même à Sciences et Vie, on citait évidemment les scientifiques dans le papier, mais ici, la première page du journal et la dernière page du journal montreront le tour du monde que l'on a fait pour aller chercher un éthologue, un astrophysicien, un biologiste, dans le monde entier. Et on pense que c'est comme ça qu'on va établir un rapport de confiance avec le lecteur pour lui dire « on travaille et on va aller directement à ceux qui regardent le réel en face, avec un microscope, avec un télescope ». Et les scientifiques sont évidemment les grandes stars de ce journal, parce que c'est eux qui nous racontent les histoires les plus extraordinaires.
Des sujets traités avec le plus grand sérieux, la plus grande rigueur par Epsilon à venir en juin, mais également des sujets plus anecdotiques, mais traités avec tout autant de sérieux. On continue d'en parler avec vous, Hervé Poirier et Mathilde Fontaise. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hervé Poirier et Mathilde Fontaise, ce sont des anciens de Science et Vie qui vont lancer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire au mois de juin, un nouveau magazine scientifique très ambitieux. Ça s'appelle Epsilon. Il y a des sujets sérieux, on l'a entendu avec cette enquête sur le Covid. Il y aura des sujets plus légers. Exemple, alors j'ignorais que ça existait, un papier consacré à l'adolescence animale. Qu'est-ce que c'est l'adolescence animale? Qu'est-ce que vous nous apprenez là?
C'est un tout nouveau champ de recherche dans l'éthologie, c'est-à-dire dans l'étude des comportements des animaux, où chez les vertébrés, les chercheurs se rendent compte que les ados souris abusent de l'alcool. Que les ados chimpanzés sortent en bande dehors.
Ah oui ?
Que les ados éléphants deviennent très irascibles. Que les ados vaches cherchent leur personnalité. Que les ados dauphins inventent leur propre code culturel. Bref, que tout ce que l'on voit chez les ados.
Ouais.
En fait, est présent dans les espèces animales. Et donc, cette vaste enquête à travers une quinzaine d'espèces animales montre une adolescence universelle dont les humains ne sont qu'un exemple et qui partagent tous cette étrange période qu'on appelle des fois l'âge bête, où les gens se cherchent. Donc ça participe aussi de la grande union de la vie où nous sommes des animaux comme les autres.
D'autres sujets légers, notamment dans une rubrique qui s'appelle Pop Science, et des sujets sérieux également, par exemple sur la 5G. Pourquoi avoir choisi ce mélange?
On a choisi ce mélange parce que, effectivement, on a... Enfin, la science, en fait, comme je disais, notre outil, c'est la science pour regarder le monde, et la science va décrypter parfois, va aider à se faire un avis sur un sujet. Donc la 5G, c'est ça. On propose de faire le tour un peu de la question de la 5G, de plonger dans ce sujet compliqué sans donner la réponse, sans dire c'est bien ou c'est pas bien. Le projet d'Epsilon, c'est vraiment de mettre sur la table toute la complexité du monde telle que la science peut la montrer. Et donc là, la 5G, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait d'une technologie dont on a du mal à évaluer le bénéfice, le risque. Et on a décidé de proposer de manière foisonnante au lecteur, sous la forme d'une sorte de labyrinthe, tous les éléments en fait, qui permettent de se faire un avis, en tout cas d'embrasser le sujet. Et la science, c'est donc du décryptage, mais c'est aussi assez drôle, assez étonnant, assez radical, la science. Et la science s'empare de tous les sujets, même les plus anecdotiques.
Je suis d'accord avec vous. Vous prêchez un convaincu. Hervé Poirier, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet-là?
Oui, c'est que Epsilon essaye... Le but, c'est pas d'être pédagogique. Il y a des sujets qui sont des fois compliqués, et les journalistes ont tendance à vouloir simplifier. des fois, il y a des sujets compliqués qui le sont intrinsèquement. Et sur la 5G, le projet, c'est de dire, on n'y comprend rien à la 5G, mais c'est normal parce que c'est intrinsèquement compliqué. Voici à plat toute cette complexité, à vous, lecteurs, de vous en sortir, mais on ne peut pas vous simplifier la complexité quand elle est intrinsèque. Donc on a ce souci de ne pas être dans la pédagogie, dans la simplification. Le lecteur est un adulte, il doit comprendre qu'il y a des sujets, ils sont intrinsèquement compliqués.
Je la cite souvent, mais c'est la phrase de Paul Valéry qui dit « Ce qui est vrai est compliqué et ce qui est simple est faux ».
Eh ben, c'est une très jolie phrase pour Epsilon.
On a pu feuilleter la première version d'Epsilon. Je n'ai pas le droit de la montrer ici à la caméra parce que la couverture est une fausse couve. Il ne faut pas vous griller et on respecte cet embargo. En revanche, je peux raconter le format. C'est celui d'un news magazine. Il y a une centaine de pages. Il y a une intention de rajeunir le public qui s'intéresse à la science.
Oui, on veut être beaucoup plus ouvert que les autres magazines scientifiques, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus coloré, beaucoup plus radical.
En quel sens radical ?
Radical, c'est on pense que la science, c'est la radicalité. On parlait tout à l'heure de l'addiction aux écrans qui est faux. Donc on veut aller directement ôter tous les voiles que les journalistes peuvent mettre entre le réel et les histoires. Donc on veut mettre les histoires totalement à nu. Donc on a décidé d'avoir une maquette la plus aérée possible, la plus colorée possible. La science, c'est beau, la science, c'est radical, la science, c'est joyeux. Et on a essayé de faire transparaître ça dans les journaux, dans le journal.
C'est la philosophie de ce nouveau magazine. Je vais poser la question basique. Pourquoi en avoir créé un nouveau, en dehors du fait que Science et Vie a connu les soubresauts qu'il a connus?
On a voulu en créer un nouveau parce qu'on a l'impression qu'il y a un appétit énorme pour ça. Il y a notre appétit à nous de raconter le monde dévoilé, décrypté, analysé par la science. Mais on a l'impression qu'il y a un appétit énorme aussi d'un lectorat qui on sait bien aujourd'hui que la science est présente dans tous les domaines. Elle a surgi avec le Covid, avec le réchauffement climatique. La science, en fait, apporte un point de vue dont on pense qu'il est demandé par les lecteurs. Et on pense qu'il y a un public pour ça. Et on veut vraiment élargir. On veut sortir un peu de cette petite catégorie de magazine qui est le magazine scientifique, avec un côté un peu à part du monde, un peu près spécialisé dans un coin du kiosque. Et on a l'impression qu'un magazine peut faire son entrée de manière beaucoup plus large, en fait, en parlant de science, mais avec pour objet le monde, avec pour objet et du coup parler à tout le monde, répondre aux préoccupations de tout le monde.
Vous serez une douzaine de journalistes, tous des anciens de Science et Vie, c'est bien ça ?
Oui, les 11 journalistes qui sont partis de Science et Vie font partie de la rédaction d'Epsilon. Et il y a 3 journalistes qui sont en train de partir de Science et Vie et qui vont rejoindre aussi la rédaction d'Epsilon.
Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'on connaissait de Science et Vie ?
On va essayer de mettre le monde directement au premier plan. On s'intéresse pas à la science en tant que telle. Quand un sage montre la lune, la plupart des journaux parlent du doigt, du sage, du moyen, de l'outil. Nous, on va essayer de mettre la lune dans sa plus belle majesté, expliquée évidemment par le sage.
Ça va être un concurrent frontal de Science et Vie qui persiste, qui continue à exister.
Science et Vie continue à exister.
C'est une belle revanche pour vous.
On verra si elle est belle, mais en effet, nous allons dans un marché très concurrentiel et nous pensons, on a 150 ans d'expérience à Science et Vie, l'équipe cumulée, je pense, on a les moyens de raconter des histoires pétries de notre savoir-faire.
Vous parlez de moyens, lancer un nouveau magazine, ça s'improvise pas, il faut un éditeur. Qui sera l'éditeur, avec qui avez-vous choisi de travailler ?
Nous avons choisi de travailler avec Unique Héritage Média,
UHM, on peut aussi dire comme ça,
qui édite Fleurus, les éditions Fleurus par exemple. On a choisi cet éditeur parce qu'on a tout simplement fait une rencontre en fait avec le PDG du UHM qui s'appelle Emmanuel Mounier, qui est un passionné de science, amoureux de Science et Vie depuis qu'il est enfant. Il le raconte beaucoup. Et avec qui on a tout de suite noué une relation de grande confiance. On est un peu, nous, traumatisés aussi par ce qu'on a pu vivre à Science et Vie avec le rachat de Science et Vie par ReWorld Media.
C'est pour ça que vous l'avez choisi, lui, et non pas un grand groupe, parce que vous avez été également courtisé.
Oui, oui. Clairement, c'est pour ça. On a senti une confiance, un respect du journalisme, hein, de la nécessité de qualité pour un magazine scientifique, de la nécessité des moyens pour produire un magazine scientifique. On parlait tout à l'heure des chercheurs, des histoires. Tout ça, c'est du temps passé au téléphone, sans chercheurs à appeler par mois, des enquêtes pour sortir des histoires originales. Pour parler de l'adolescence animale, il faut aller interroger une quinzaine de chercheurs et trouver que ce sujet est émergent dans la science. Il n'a été publié nulle part. C'est produire des histoires originales. Ouais. Tout ça, ça demande des moyens. Et donc, effectivement, cette rencontre-là nous a permis d'être sûr là maintenant de pouvoir produire un magazine de qualité.
Il y aura de la publicité dans Epsilon ?
Oui, il y aura de la publicité dans Epsilon. Le modèle économique d'une presse magazine, c'est affreusement cher.
Ouais.
Au-delà de l'équipe journalistique, c'est du papier, c'est de la distribution, c'est de l'impression. Donc c'est très très cher. 90% du budget seront payés par les lecteurs.
Ouais.
Mais il y aura 4 ou 5 pages de publicité. Pour équilibrer le modèle, l'idée de base d'Epsilon, c'est que notre indépendance sera basée sur notre rentabilité.
Ouais.
Et notre rentabilité va d'abord et avant tout dépendre de l'intérêt que les lecteurs auront à l'acheter chaque mois.
Votre point d'équilibre, vous le situez à combien d'exemplaires par mois ?
20, 30, 40 000, mais si on dépasse les 100 000, tant mieux.
Oui, bien sûr, mais c'est pas la même, même 20 et 40 000, c'est pas la même chose. À quel niveau de vente vous êtes équilibré ?
C'est vrai que dans la folie de la création, nous nous préoccupons d'abord avec Mathilde là du contenu. Je n'ai pas la réponse exacte, je dirais 30 000.
Comment faire pour garantir l'indépendance du magazine ? C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de patrons de presse, compte tenu en plus pour vous de ce que vous avez vécu avec Reworld Media.
Bon, le premier point, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que si une rédaction... s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'indépendance.
Ouais.
Donc c'est d'abord et avant tout le soutien des lecteurs. Plus on aura d'abonnés, plus on sera indépendant. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'écrire une charte ambitieuse pour garantir... que même quand Emmanuel Mounier, dont on a totale confiance, même s'il passe la main à un autre actionnaire, la rédaction sera indépendante et autonome.
C'est aussi pour ça que vous avez lancé une campagne de pré-abonnement sur Ulule ?
Oui.
Alors expliquez le principe. Et que peuvent faire les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par Epsilon ?
Donc le principe, c'est qu'on ne s'est pas appuyé sur un industriel qui est un mécène. On n'est pas avec un mécène, on est avec quelqu'un qui a besoin de trouver la rentabilité du magazine. Donc on fait appel pendant un mois à tous les futurs abonnés de nous faire confiance et de se pré-abonner sur Ulule afin que l'on puisse lancer ce magazine, car en l'état, il y a zéro abonné aujourd'hui.
Donc on va sur ulule.com, on tape Epsilon, avec de haut.
De haut.
Et là, on vous trouve et il faut payer combien et quoi et on a quoi en échange ?
Alors 50 euros l'année pour 12 numéros. On peut faire un abonnement. Il y a aussi des abonnements où on peut acheter 200 d'un coup si on est intéressé.
Hein, d'accord.
Donc on peut soutenir gaillardement. Mais l'idée, c'est avoir un lecteur passionné qui va attendre chaque mois son Epsilon dans sa boîte aux lettres. Et donc il s'engage en pré-abonnement pendant un mois.
Évidemment, le numéro qui va sortir en kiosque fin juin, vous connaissez la date précise ou pas ? Ou c'est juste fin juin, c'est flou ?
25 juin, je pense.
Le 25 juin. Merci beaucoup. Ça coûtera 4,90 €. Longue vie à Epsilon. Merci d'avoir annoncé le titre ici dans Culture Média en direct. Merci pour cette confiance. Mathilde Fontaise, Hervé Poirier, vous êtes les artisans de cette naissance. Dans un instant, nous serons avec l'ex-DG de Fremantle France et avec l'actuel patron de Télépresse. Là encore, c'est une naissance. Ce sont les cofondateurs de Studio Fact, une nouvelle société de production télé dédiée aux histoires vraies télé et pas seulement. Eux, ils ont fait une levée de fonds et pas qu'un peu, 35 millions d'euros. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Jacques Aragonès.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes producteur, vous dirigez Télépresse Productions. Vous étiez venu nous voir en mars dernier pour un doc très fort consacré à la prostitution. Mais évidemment, votre activité journalistique va sur beaucoup d'autres terrains. Bonjour Roxane Rouas-Rafovitch.
Bonjour Philippe.
Vous êtes ancienne directrice générale de Fremantle France, qui produit notamment L'amour est dans le pré, La France, un incroyable talent ou encore Question pour un champion. Et tous les deux, vous venez de créer une entité qui ambitionne de devenir un futur grand de l'audiovisuel, du multimédia, puisqu'il y aura même de l'édition. Vous êtes en train de boucler une levée de fonds de 35 millions d'euros. L'entreprise va s'appeler Studio Fact. Fact comme un fait réel. C'est quoi l'idée de départ ? Qui veut répondre en premier ?
Ben bonjour. Donc, Studio Fac, donc c'est le premier et on peut dire même le seul acteur en France qui a cette particularité, c'est de ne raconter que des histoires vraies ou basées sur des histoires vraies. Donc c'est l'alliance de Jacques et son expertise journalistique et de la mienne qui vient un peu plus effectivement de l'entertainment, du divertissement. Et donc on a réfléchi, on a maturé ce projet et on s'est dit qu'il y avait une immense appétence du public pour tout ce qui était inhérent au réel. Ouais. Et donc, on a construit un groupe avec plusieurs entités, dont chacune raconte le réel de différentes façons.
On va raconter les cinq entités qu'il y a, mais d'abord le fond, le contenu, s'appuyer sur des histoires vraies. Jacques Aragonès, ce qui vous a inspiré, j'imagine ce qui a motivé aussi, puis ce qui motive les gens d'investir dans cette société, parce que 35 millions, c'est pas rien, c'est des succès comme l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ou des livres comme La Familia Grande de Camille Kouchner ou même Grégory, la série sur Netflix.
Exactement, que ce soit aussi bien en documentaire qu'en fiction, les fictions du réel qui racontent des histoires vraies, sur les plateformes, mais aussi sur le service public, sur les chaînes privées en France, il y a une vraie appétence, un vrai goût du public pour ces histoires-là. Nous, on le fait depuis un moment à TV Presse, mais dans le documentaire, dans l'investigation. Aujourd'hui, on va le faire dans le podcast, dans la fiction et dans l'édition.
Et vous avez vu l'info que donnait ce matin dans le journal des médias Antoine Genton. Il y a une nouvelle émission qui arrive sur M6, vous avez entendu ça. Il y avait déjà deux émissions de Cold Case au bout de l'enquête sur France 2 et à la recherche du coupable sur C8. Et là, M6 va lancer Appel à témoins où on racontera une histoire et les gens pourront vraiment téléphoner sur une véritable histoire. Et ce sera en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice. Ça donne raison à l'intuition que vous aviez.
Exactement, je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Les faits divers, nous, c'est notre passion, les affaires criminelles, mais pas seulement, il y a aussi les grands thèmes de société. Tout ça, effectivement, peut se traiter de différentes manières, en documentaire, en fiction, en série, en podcast et en édition, parce qu'on y tient beaucoup, on en parlera tout à l'heure.
Alors justement, on va en parler maintenant. Tiens, le groupe sera décliné, si j'ai bien compris, en cinq entités principales pour cinq métiers, Roxane Roy-Strafovitch.
Oui. En réalité, c'est vrai que quand on parle histoire vraie, souvent on parle faits divers, ouais. D'accord ? Mais c'est pas que ça, c'est tout le scope du réel et sont les faits, les phénomènes de société, la culture, le patrimoine. Vous receviez tout à l'heure des gens qui vont parler science, mais c'est aussi environnement. Ce sont tous ces sujets et la particularité du groupe, c'est d'envisager ce fait, cette histoire, sur tous les modes de narration, c'est-à-dire aussi bien sur l'ADN d'origine de TV Presse, c'est-à-dire le reportage, le magazine, l'investigation, avec l'équipe de journalistes extrêmement expérimentés, mais également sur le mode du documentaire patrimonial, comme on dit, et donc l'édition, parce qu'il y a aujourd'hui une grande vague d'éditions et de romans graphiques qui évoquent les faits réels, le podcast et la fiction, donc issue un peu de ce courant américain qu'on appelle la narrative non-fiction, qui est en fait le journalisme narratif ou la fiction du réel, c'est-à-dire utiliser les codes de la littérature pour raconter différemment une histoire.
Mais une histoire vraie.
Une histoire vraie. C'est comme fait Florence Aubenas ici, par exemple, quand elle fait L'inconnu de la Poste, ou Emmanuel Carrère dans L'Adversaire. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la non-narrative fiction, mais c'est des journalistes ou des auteurs qui s'emparent d'une histoire vraie et qui en font un objet littéraire ou une fiction.
Ou cette série Narcos qui raconte Pablo Escobar.
Exactement.
Rien n'est, c'est des comédiens, mais tout est vrai.
Exactement.
Voilà.
Tout est documenté, vrai.
Qui seront vos clients? Je veux dire, à qui vous adressez-vous? Alors, Jacques Aragonès, vous êtes un ancien de TF1, vous avez été le rédac-chef du Droit de Savoir sur TF1, puis le patron des magazines. Roxane Roy-Strafovitch, vous avez travaillé beaucoup avec M6, mais aussi d'autres chaînes. J'imagine que vous allez essayer de travailler avec toutes les chaînes.
Mais on travaille déjà avec toutes les chaînes et avec les plateformes bien évidemment. Donc, TV Presse existe depuis presque 15 ans, Jacques la dirige depuis 10 ou 11. TV Presse reste et la première pierre, entre guillemets, à l'édifice de Studio Fac Media Group, donc qui va regrouper 5 entités au global. On travaille avec tout le monde, mais c'est cette force justement de prendre un fait et de le décliner sur tous les modes narratifs qui fait notre différence.
Avec quelle plateforme vous travaillez déjà? Jacques Aragonès, vous avez déjà annoncé des projets avec Netflix, avec Amazon et avec Disney+.
Oui, on a des projets avec ces trois plateformes qui sont en développement, à l'écriture, effectivement, sur du documentaire, de la fiction aussi. Absolument, et on pourra communiquer dans quelques semaines sur... Voilà, pour l'instant, on ne peut pas, ce qu'on appelle dans notre jargon, discloser encore, mais c'est en cours et c'est en tout cas bien avancé.
Ah là là, on ne peut pas discloser. Jacques Aragonès, tout se perd, Roxane Roy-Strafovitch, Culture Média continue. On continue justement de parler de Studio Fact. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On continue de parler du lancement de Studio Fact, future entité, futur grand de la télévision et l'audiovisuel multimédia qui vient de lever 35 millions d'euros. On est avec Roxane Roas-Rafovic et Jacques Aragonès. On parlait des plateformes avec lesquelles vous avez déjà commencé à travailler, Netflix, Amazon, Disney+. Vous aviez déjà instauré cette collaboration avec TV Presse et Brut X. Plateforme, je le rappelle, lancée par Brut, elle aussi ancrée dans le réel. Vous allez travailler avec eux, j'imagine.
Avec grand plaisir, on les connaît. On a déjà fait des coproductions avec Together, d'ailleurs, qui produit Brut X.
Ouais.
Et oui, c'est une belle, très belle idée, et ce qu'ils font est remarquable.
Alors, avec quel talent allez-vous travailler? Parce qu'une chose est de diffuser, une autre est d'avoir des gens de talent avec soi pour bosser. Et si vous agrandissez, il faut faire venir du monde. Il y a un nom qui circule déjà, c'est Marie Drucker.
Ah bah ça, c'est sûr.
Qu'allez-vous faire avec Marie Drucker?
On a beaucoup de chance, parce que c'est vrai que la vie, on dit souvent, c'est une histoire de rencontre. Et on a eu la chance de rencontrer ces dernières années. C'est vrai qu'on travaille dans le secteur depuis 25 ans. Mmh. Donc on a quand même vu beaucoup de monde. Et il y a des rencontres qui sont particulières parce qu'elles matchent immédiatement. Et c'est le cas, par exemple, avec Marie, qu'on a rencontrée sur un projet en particulier, et avec laquelle et ses équipes, on a une espèce de chimie comme ça, organique. Donc on développe pas mal de projets. Figure de la résistance, entre autres.
J'allais justement y venir, puisque vous avez anticipé ma question. Vous dites avec ses équipes, elle a déjà une société de production qui s'appelle No School TV. Donc vous allez faire des coproductions avec elle, ou est-ce que vous allez intégrer Marie Drucker à votre boîte de prod, à vous?
D'abord, on est en codev et en coproduction avec elle. Et d'ailleurs, avec
codev,
co-développement, voilà. Et coproduction. Et on le fait, et Marie en particulier, parce que c'est vrai qu'elle est très chère à notre cœur, mais on le fait avec d'autres sociétés dans le monde de la production audiovisuelle. On est très confraternel. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a un ADN de journaliste, mais c'est vrai qu'on adore travailler avec nos pairs, avec les collègues de la profession. On pense que nos regards croisés s'enrichissent, et on est très ouvert au contraire à tout ça. Donc avec Marie, on a un certain nombre de projets.
3-4 projets de documentaires et de fiction qui sont en écriture, en développement, avec Marie et ses équipes.
On travaille également avec Michael Prazan, qui est un auteur réal de documentaires fameux, et qui va nous accompagner justement sur la filiale documentaire, donc Studio Fact Doc, avec lequel lui qui a un regard très profond sur les sujets en général. Donc on travaille avec lui. Évidemment, vous avez cité, ou je ne sais pas encore, Thomas Langman.
Bah, j'allais en parler, alors je vais dire qui il est. Thomas Langman, c'est un poids lourd du cinéma, c'est un producteur. Je vais citer Astérix, Star 80 et The Artist quand même.
Et Mesrine,
Oscar,
pour être dans notre thème.
Et Mesrine, vous allez faire quoi avec Thomas Longman?
Alors, on en a plusieurs, mais on en a un. Mais là, on va pas pouvoir en parler aujourd'hui.
Mince encore,
tout de suite.
On a un gros projet de série avec lui. On tease un peu.
Ouais, tease un peu. Déjà, c'est une série.
Sur une saga familiale.
D'accord.
That's all.
D'accord.
Sur une saga familiale, mais on reviendra vous l'annoncer à vous, Philippe.
Comment ça se passe, par exemple? Prenons ce cas-là. Vous avez déjà un diffuseur où vous êtes tellement sûr de votre coût, de la qualité de ce que vous faites, que vous commencez déjà à tourner ou à développer sans même avoir de diffuseur.
À écrire en tout cas, clairement. Ouais. À écrire la première saison. Évidemment, on pense à des diffuseurs, mais à ce stade-là, on est au stade de l'écriture, en effet. Mais assez avancé.
Alors, je l'ai dit, c'est multimédia. Il y a aussi une activité, c'est assez rare pour signaler, à ma connaissance, c'était une première, dans l'édition.
Exactement.
Qu'est-ce que vous allez faire dans l'édition?
On s'est rendu compte, d'abord dans le terrain des histoires vraies, le roman graphique, bon, l'édition littéraire, bien évidemment, c'est le terrain de jeu privilégié, mais le roman graphique est en train de prendre une place extrêmement importante. On a évidemment, par exemple, la revue 21 qui s'exprime là-dessus, et on a beaucoup d'auteurs, y compris des journalistes, qui ont envie de s'inscrire là-dedans. Et on a envie, nous, de leur faire plaisir et puis de
monter les envois. Ça s'inscrit complètement dans le projet. Regardez la BD qui est un succès dingue, Les Algues Vertes, qui va être adaptée en long métrage et réalisée par Jolivet. Donc il y a vraiment là aussi un vrai goût du public.
Et un mot du podcast qui fait partie de vos projets. J'en parle parce que c'est absolument passionnant, le podcast. Je suis le premier client, mais jusqu'ici, personne n'a vraiment réussi à les monétiser. Comment vous allez faire? Ça sera en complément ou vous pensez que ça peut devenir rentable, le podcast?
Je pense qu'en France, c'est encore embryonnaire. Aux États-Unis, c'est un marché qui est rentable. Mais je pense qu'il faut y être d'abord parce que ça nous passionne, parce qu'on a des journalistes dans l'équipe, au documentaire, à TV Presse qui s'y mettent et qui en font déjà. Et puis, on a des projets aussi bien en documentaire qu'en fiction d'ailleurs sur les podcasts.
D'accord, merci beaucoup Jacques Aragonès. Vous êtes obligé de revenir nous voir parce qu'il y a encore trop de choses à annoncer, trop de codev. Roxane Roy-Astrafovitch et Jacques Aragonès qui lance Studio Fact avec cette levée de fonds. Et le lab, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà, il y avait trop de choses aujourd'hui, mais c'est un plaisir. Grand bonheur. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour un zapping du lendemain coup de cœur. Sylvain Tesson qui suit la Légion étrangère en Guyane. Et puis Chamerois pour un écran de veille sur une guerre sans merci à Nice. C'est leur ville, à Eva Rock et à Chamerois à Nice. Notre invité culture, c'est Phénomène. Zaya Ziwani, chef d'orchestre iconoclaste, l'une des premières à se produire en concert cette année, mais c'est pas pour ça que c'est un phénomène. Vous allez entendre l'histoire d'orchestre qu'elle a créée qui s'appelle Divertimento, c'est hallucinant. Et puis dans les indispensables, on va parler de la Coupe du Monde de Slam avec Christophe Carrière et Eva Rock revient pour un doc exceptionnel, j'y arrive, sur Billie Holiday à ses masques, je m'y fais toujours pas. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.